Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Et bonsoir, bienvenue à tous. Effectivement, c'est l'heure de Radio Lomax ici dans la salle du 106. Bonsoir, bonjour. Sur la web radio du 106 également, radiole106.com. Jérémy, la team HDR aux commandes techniques et radiophoniques pour une diffusion différée sur les deux radios normandes, sur Principe Actif à Évreux 102.4 et 95.9 dans le sud de l'Eure et sur HDR sur la métropole rouennaise le lundi à 18h. Monsieur Sagawa, Emmanuel Outmer est aux images et ce soir, c'est la fête au 106, une fête chamarré qui mélange les guitares espagnoles ou romano, le bandoneo d'Amérique du Sud, à moins que ce ne soit l'accordéon des faubourgs de Paris, des trompettes ska, une démarche punk et de toute façon l'expression d'une forme de liberté née à la fin des années 80, une musique de fête donc avant tout, quand les choses doivent s'enflammer, quand les pas doivent frapper le sol. Même si la nostalgie n'est jamais bien loin, le premier album c'était il y a 30 ans avec un certain Elno au chant. Les Négresses Vertes qui vont venir nous visiter tout à l'heure, juste après Arsène Lupin, trio du Nord qui aime la flûte, la contre-poubelle et le banjo et les chansons qui grattent en dansant du rock alternatif des années 80-90.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Frank Zappunk, Frédéric Chopunk, Edgar Allan Punk est en train de manger. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Arsène Lupin avec un répertoire qui va piocher, picorer dans le répertoire du rock alternatif, du punk, de la chanson anarde avant le troisième millénaire. Un petit côté VRP quand même affirmé, j'ai l'impression.
C'est moi le roi de la route.
Je mets une tête de 100
heures. Je peux faire Paris Beyrouth.
En ligne de meilleurs.
C'était un extrait du Roi de la Route, revendiqué donc avec la contre-poubelle, les chansons à texte qui se moquent, qui grattent la plaie. Vous faites partie d'une compagnie, la Roulotte Ruche, qui propose des spectacles de rue, de la musique. Vous nous racontez l'histoire de cette compagnie, peut-être pour commencer ?
D'accord. Eh bien, en fait, c'est l'histoire de cette compagnie, c'est la nôtre, puisque Arsène Lupin qui existait avant la compagnie. Et Arsène Lupin avec d'autres...
La route... Ah oui, c'est ça, oui. D'accord. Ouais. Le groupe existait avant la compagnie.
Le groupe a donné naissance à la compagnie avec d'autres artistes. Et cette compagnie a pris après des chemins plus orientés vers le théâtre de rue et aussi le théâtre tout-terrain pour le jeune public, la fanfare, etc. Et nous, on y est toujours en tant que membre fondateur. Et on est le groupe, on va dire, rock'n'roll acoustique de la compagnie, avec un chemin un peu différent, puisque nous, on va sur les scènes, alors que le reste des spectacles de la compagnie vont dans la rue.
Et vous ne jouez jamais dans la rue ?
Si, on y a beaucoup joué. On y joue toujours de temps en temps, dans les bistrots aussi, mais on a pris un tournant scène il y a quelques années, et c'est pour ça que nous voilà ici.
Et en parlant de rue, vous chantez la rue des bons enfants. Alors ici à Rouen, nous avons également une rue des bons enfants. Il y a un Rouennais effectivement avec nous, c'est Frédéric Chopunk, c'est ça ? Non, c'est Frank Zappunk, pardon.
Frank Zappunk, oui.
Qui est donc d'origine rouennaise. Vous avez quitté Rouen il y a quelques années maintenant pour Lille, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça, une trentaine d'années on va dire.
Mais vous connaissez la rue des bons enfants à Rouen, forcément.
Tout le monde la connaît, oui.
C'est quoi la vôtre, cette rue des bons enfants ? C'est celle de l'anarchiste Debord ou celle des Olivenstein ?
Alors, c'est celle de l'anarchiste, hein, cette histoire voilà, d'attentat qu'il y a eu. Après, ça a été repris par différents groupes. Nous, on la reprend aussi à notre façon, mais voilà, au départ, c'est celle de l'anarchiste.
Et ouais. Donc, c'est votre présence aussi qui fait qu'on a les Olivenstein dans le répertoire.
En fait, les Olivenstein, effectivement, font partie du répertoire punk rock qu'on aimait reprendre. Quand on s'est penché sur tous les groupes des années 80, il y en a énormément. Il y en a des très connus, il y en a des moins connus. Et puis, il y en avait qui avaient arrêté de jouer. Donc, nous, ça nous faisait plaisir de jouer de ces morceaux-là. Et on est heureux de constater aussi que tous ces groupes reprennent la route, même 30 ans après. Et bon, ben voilà, on chante toujours ces morceaux-là à notre façon.
Et on peut dire que vous perpétuez une sorte de tradition qui pourrait démarrer avec les Troubadours. Les Troubadours qui s'est exprimé pas mal dans les années 80 avec ces chansons que vous réinterprétez avec les VRP, les Garçons Bouchers ou encore les Berruriers.
Nous sommes
les Berruriers noirs avec les rebelles, les négresses vertes évidemment, qui sont là, qui font partie de cette famille. C'est la vôtre, cette famille, comment on pourrait la définir?
Je pense que c'est de la musique qu'on a pas mal écoutée à l'époque. On était à peu près contemporains de ces groupes-là quand ils jouaient, en tant que spectateurs. Effectivement, les Berru, c'est quelque chose qui a pas mal bercé notre post-adolescence. On a vu tous ces groupes à l'époque en concert. Et ça nous a amusé de les reprendre en acoustique pour justement pouvoir le jouer partout, dans tout public, pouvoir le jouer au coin d'un bar, pouvoir le jouer dans une crèche, dans la rue, et sans les problèmes liés à l'amplification. Donc tout d'abord en acoustique, et puis après du coup, ce qui se passe, c'est qu'on s'est réamplifié pour pouvoir rejouer sur scène, mais toujours avec des instruments acoustiques.
Oui, parce qu'on peut dire qu'à l'origine, on avait vraiment envie de porter ces morceaux-là, dans des endroits où les gens, c'est pas le public des groupes de punk rock des années 80 ou même d'aujourd'hui. Et ces textes, ces répertoires ont du sens, ça perd jamais de son actualité. Les questions de lutte qui sont soulevées sont toujours présentes. Et pouvoir chanter ça dans des bistrots, n'importe où, dans la rue, des fois on a fait des concerts jeunes publics en acoustique à certains endroits. Nous, ça nous permet d'aller donner ces chansons qu'on aime bien et les rendre, on va dire, plus accessibles au niveau son.
Mais c'est ça, c'est un genre qui avait un peu disparu avec l'arrivée des années 2000, on va dire. Cette chanson qui est une chanson qui aime bien s'attaquer à l'ordre établi, au pouvoir. Vous pensez qu'aujourd'hui, il est temps de revenir à ce répertoire qui dit le monde peut-être de façon plus directe?
Disons qu'il est temps de ne pas l'oublier, en tout cas. Et il a toujours sa place. Et puis, bon, il y a quand même pas mal de groupes qui continuent à faire ce genre de répertoire, sauf qu'ils ont peut-être moins de relais médiatiques que d'autres styles musicaux aujourd'hui.
Ouais. Les punks sont toujours là et continuent de faire de la musique, évidemment.
Ouais.
Les punks ne sont jamais morts. Hein.
Jamais. Ces chansons, elles plongent aussi dans les tréfonds, dans les bas-fonds. Ça aussi, ça fait partie de cette tradition. On pense à des chansons de la Mano Negra, des Négresses Vertes ou de la rue des Martyrs, des Garçons Bouchers, par exemple.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir.
Comment est-ce que vous avez choisi les morceaux justement que vous vouliez reprendre? Vous vous êtes fait une soirée avec vos disques, vous les avez passés les uns derrière les autres, comment ça s'est passé?
Comme ça, carrément. On a choisi dans le répertoire commun qu'on aimait bien, en quelques groupes qui nous semblaient évidents. Assez simple aussi, on était intéressé par l'aspect brut et immédiat du punk, c'est-à-dire trois accords, même si on n'est pas des super bons musiciens ou très en place, etc. C'est possible de monter un répertoire d'une demi-heure, trois quarts d'heure et tout de suite jouer. Donc ça, c'est l'aspect aussi spontané qui nous intéressait. Et ensuite, on a été recherché dans les médiathèques, en demandant à des amis, en cherchant des vieilles cassettes, des groupes un peu moins connus, en essayant de retrouver les retranscriptions, voire même parfois les textes qui sont assez incompréhensibles parfois juste. Donc un petit travail d'archivage.
Vous avez gardé le côté incompréhensible,
ouais.
Ou non?
Non, justement, on essaye justement de refaire sortir tous ces textes intéressants qui ont, comme disait mon camarade, gardé beaucoup d'actualité sociale, de lutte ou même assez humoristique. Et la preuve, c'est vrai que là, tous les groupes d'il y a 30 ans remontent sur scène et remplissent les salles. C'est bien qu'il y a quelque chose, un message qui est toujours là. Bon enfant, peut-être un peu plus apaisé. On réagit moins violemment quand on a 55 ans que 25. Mais voilà, en tout cas, ce soir, c'est plein.
Il y a un groupe ou une chanson qui symbolise pleinement ce mouvement-là, ou selon vous, parmi ce que vous reprenez sur scène, notamment?
Il y a certains groupes qui sont vraiment emblématiques, comme les Berru. Berru et Noir, c'est quand même quelque chose qui passe encore dans les radios, dans les bars, etc. C'est un groupe qui a toujours eu une existence et une légitimité, et assez représentatif de cette époque-là, avec un côté engagé, militant, mais très festif, déguisé avec des costumes, avec des feux d'artifice, avec des espèces de tribus comme ça. Et cet aspect militant, engagé et festif, ils sont beaux. Les Ludwig, les Shérifs l'avaient aussi. Je pense qu'ils sont pas mal dans cet esprit-là.
Ouais, en fait, quand on a commencé, on s'est surtout attaqué au monument, on va dire, du punk rock. Et je dirais qu'il y avait deux groupes principaux. Donc, il parlait des Bérus, Franck, mais il y avait les Shérifs également. Et c'est vraiment, pour moi, deux vagues un peu du punk rock.
Qui sont remontées sur scène il n'y a pas très longtemps.
Ouais. Mmh. Et c'est deux vagues du punk rock différents, avec un truc très rentre-dedans, très militant du côté des Bérus, une recherche de son, et un truc beaucoup plus festif, joyeux, des textes engagés, mais avec de la légèreté, de l'autre côté, avec les Shérifs. Et en fait, je pense qu'on est sur deux formes. Qui peuvent dire ça, c'est du punk rock, ça c'est du punk rock. Et au milieu de tout ça, il y a plein de gens qui ont pris un peu par-ci, par-là, voilà.
Alors, il y a La rue des bons enfants, on en parlait tout à l'heure, qui est un morceau qui est un peu plus vieux que toutes ces chansons-là, qui est une chanson anarchiste. Est-ce qu'il y a des grands oubliés, en dehors peut-être de cette chanson, que vous reprenez ou que vous avez eu envie de remettre en lumière?
Alors, on va pas tout jouer ce soir parce qu'on a fait une quarantaine de reprises au total. Alors on les joue pas toujours toutes parce que ça dure longtemps. Mais on a, par exemple, remis en lumière un groupe qui s'appelait PPI, Pervers Polymorphes Inorganisés, et qui a fait une chanson qui s'appelle Pop Sida et qui est sortie sur un EP à l'époque. Je sais même pas si ce groupe a fait des concerts, mais dedans il y avait des gens de Ludwig, il y avait la chanteuse de ce qui est devenu Paris Combo après, et des choses comme ça. Et voilà, on va pas la jouer ce soir, hein. On a un temps réduit, mais on s'est amusé à aller, au bout d'un moment on s'est dit on va pas toujours reprendre les mêmes, donc on s'est amusé à aller déterrer des trucs, aussi à écouter les conseils des gens, parce que comme on a été dans des endroits assez différents, dans une ville on va nous dire ah ouais, vous avez, nous ici on avait machin, etc., ça vous dit pas de les reprendre, etc. Donc on s'est laissé un peu porter aussi par ça.
Alors c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que vous êtes quand on va se balader en France pour jouer sa musique, on tombe sur des publics qui sont forcément très très avertis sur la scène locale et qui vont vous dire bah, n'oubliez pas qu'il s'est passé tel truc à tel endroit et qu'il y avait tel musicien. Ça c'est une vraie mémoire populaire intéressante, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et concernant les Négresses Vertes, quelle place est-ce qu'ils ont selon vous dans toute cette histoire et peut-être dans la vôtre en particulier?
Ils faisaient partie d'une époque formidable où il y avait plein de concerts comme la Mano Negra, etc. Alors, les Négresses étaient peut-être un peu plus sur le style néo-accordéon, etc. Avec aussi tout le mélange sur les guitares espagnoles, etc. Vraiment quelque chose de très mélangé. Vraiment, ça faisait partie d'une époque où on pouvait, en une semaine, voir 3 ou 4 concerts dans cet esprit-là. Et c'était vraiment à chaque fois des beaux moments avec un public qui répondait à fond. C'était une belle période. Ça correspondait par exemple à Lille, il y avait une salle qui venait de s'ouvrir, il n'y avait pas beaucoup de grosses salles de concert qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'Aéronef, mais voilà, ils ouvraient depuis 1 an ou 2 et c'était 4-5 concerts par semaine, et c'était tous ces groupes-là, entre autres les Négresses Vertes bien sûr, qui faisaient partie de tout ce staff de groupe, bah, là, qui se déplaçait à 14-15 et puis voilà, qui retournait toutes les salles, c'était assez fantastique.
Moi, j'imagine que ça chante aussi beaucoup dans vos concerts, non?
Ouais.
Pas tant que ça, si.
Bah ouais, en fait, on n'a pas deux chanteurs, on a 3 chanteurs. Ouais. Du coup, on chante. Voilà.
Bon. Et puis du coup, parfois, le public nous donne un coup de main.
On ne se souvient plus des paroles.
Ça fait un peu comme un espèce de karaoké géant, quoi. On chante et puis les gens, voilà, ils connaissent les chansons. Donc voilà.
Et ben, avec nous. Merci beaucoup. On a hâte de vous voir sur scène dans quelques instants, donc pour ouvrir le concert des Négresses Vertes. Merci à tous les deux d'être venus. Et puis on souhaite une bonne digestion à votre troisième comparse.
On espère.
Oui, merci. Sa troisième assiette surtout.
Ah, c'est ça. Il avait très faim. Il paraît que ça le calme. Ça calme sa tension.
Ça le calme, c'est ça.
Merci à vous deux.
Merci.
À la Irico et à Nicolas, c'est pas... Je suis le fils maudit de la génération du surgelé de la télévision. Rien qu'une fonction de consommateur, un problème de plus pour le courrier du cœur. Et je rêve devant les affiches, possession, je veux devenir riche pour aller flirter au supermarché, tout acheter ce qui me plaît, tout en un building illuminé. Le bonheur est sur terre, il suffit de l'acheter. Je dis merci à ma Minova, à l'ami Ricoré, à Nicolas. C'est pas vrai ça, n'est-ce pas Mère Denis? Le monde est un vrai paradis pour une existence saine, pour une existence saine.
C'est devenu une sorte de tradition de rendez-vous au cœur de l'hiver pour se réchauffer à l'écoute des musiques qui font entendre l'âme et la rugosité de la vie, une forme de résilience pour soigner les souffrances et fêter les petits bonheurs quotidiens. Le festival Les Nuits de l'Alligator, 3 dates samedi prochain, les 19 et 20 février prochain également. Première date donc dans 15 jours, dans moins de 15 jours, ce sera samedi prochain avec Anne O'Haraud, nouvelle voix pour le Maloya cher à Daniel Warreau, le trio Muddy Gurdy qui va nous interpréter son blues auvergnat qui fait l'aller-retour avec le Mississippi, avec sa vie à la roue, et puis J.P. Bimeni, un survivant qui a fui son pays, le Burundi, pour échapper à la guerre civile des années 90. Il est devenu un incroyable soulman. C'est lui que nous allons écouter tout de suite dans Radio Le Max, avant d'accueillir les Négresses Vertes. Et on accueille avec beaucoup de bonheur deux représentants des Négresses Vertes, Polo et Mathieu. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci
Bonsoir.
D'avoir accepté de répondre à ces quelques questions.
Avec plaisir.
Le Paris populaire des années 80, le cabaret équestre Zingaro et ses roues flaquettes, du punk, des musiques méditerranéennes, l'arrivée du Front National et la réplique antiraciste de la musique gitane. C'est cet environnement qui donne naissance aux Négresses Vertes qui vont marquer toute une génération qui alternait entre les disques de la Mano Negra et ceux des Négresses Vertes, pour ne pas citer tous les autres artistes de la scène alternative parisienne qui s'est emparée des scène de France dans les années 80-90, on va
et
dire.
Il y en a.
Et il y en avait beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a la disparition d'Elno, le chanteur du groupe, le 22 janvier 1993. Cataclysme forcément pour le groupe qui va poursuivre sa route. Mais vers d'autres horizons, plus électroniques, durant cette période, vous allez continuer à jouer à travers le monde jusqu'à la séparation du groupe. C'était en 2001. Ceux qui ont assisté à vos concerts se souviennent encore de la fusion musicale pleine d'énergie et d'humanité qui se dégageait de vos spectacles. Pour les autres, c'est l'occasion de reconnecter peut-être à cet univers. Les Négresses Vertes en tournée pour les 30 ans de MLA. La semaine dernière, on s'interrogeait avec un groupe qui s'appelle The World, qui reprend une tonalité 13 années 80, clavier et top 50. Et on se disait qu'on baignait dans une ambiance très Sylvester Stallone et Bernard Tapie et qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives finalement. Comment est-ce que vous avez vécu ça de votre côté, vous, en 1988, cette période ?
On l'a vécu naturellement. C'était une période où il y avait quand même pas mal de choses, comme tu disais au début. Il y avait pas mal de groupes, il y avait pas mal d'émulsions et c'était une bonne période, je pense, pour la musique française en général.
Mais en même temps, il y avait cette période des années 80 qui était la période fric, la période.
Ouais, en parallèle, ouais, tout à fait.
Un peu magique. Mais qui a continué après vraiment les années 90, je dirais plus, moins 90. C'était vraiment un truc où tu avais possibilité de faire plein de choses et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire des choses qui sortent un peu des sentiers battus.
Il y avait une forme de liberté
oui.
dont vous vous êtes emparé.
On s'en est emparé, bien sûr.
On va s'appuyer sur certaines chansons d'Omla pour la suite de cette interview. Alors, on trouve des démos qui remontent à 2017. Mla, premier album, donc il y a 30 ans. Le premier morceau de Mla et des démos, c'est celui-ci. Première note de la valse. Et donc, alors ça, c'est la version de l'album. Et il y a donc la version démo où on entend toute une ambiance de bar, j'ai l'impression. On entend des gens parler. Et c'est quoi cette ambiance qu'on entend sur les démos ?
Ouais, ça doit être des copains, ça doit être des gens qui sont dans la salle quand on enregistre, quand on joue.
Parce que ces démos-là, elles ont été enregistrées dans un bar ?
Pas forcément, ça peut être dans une salle de répète, ça dépend.
En tout cas, il y avait toujours du monde, quoi.
Oui, il y avait souvent du monde.
Souvent, on retrouvait une bande de copains qui étaient les bienvenus. On ne travaillait pas sérieusement, on était juste là, on jouait. Et les copains étaient les bienvenus avec des packs de bière, des sandwichs merguez, enfin bref, je te passe les détails. Et effectivement, du coup, cette ambiance est naturelle parce que c'était ce qu'on vivait à ce moment-là.
Et garder cette ambiance et ces gens qui étaient autour de vous, c'était naturel aussi de les garder
Bien
sur
sûr.
L'enregistrement.
Ah bah oui.
Parce que ça faisait partie du truc, quoi.
Oui, ça fait partie de l'aventure. Et puis c'était des démos, c'était pas des trucs qui étaient prévus pour être sortis quand on les a fait. Donc voilà aussi.
Et dans ce premier morceau, il y a toute la mélancolie des Négresses Vertes qui est toujours un peu en toile de fond. Comment est-ce que vous expliquez cette mélancolie qui accompagne vos chansons, même les plus festives, j'ai l'impression.
Ça vient du texte aussi, pas mal quand même. Et Elno, c'était quelqu'un d'assez mélancolique. Mais je pense que la mélancolie, c'est pas de la tristesse, hein. C'est de la mélancolie, c'est différent. Et la mélancolie, c'est une force. Moi, je crois que c'est quelque chose d'assez personnel.
Ensuite, vous allez me reconnaître, c'est... Qu'est-ce que vous disiez ?
Non, on disait qu'on ne reconnaissait pas.
Non. Ah ouais, non. C'est quand même un morceau assez incroyable, un des tubes des Négresses Vertes qu'on entend
pourquoi
encore.
Il est incroyable pour toi ?
Je ne sais pas, parce que, je sais pas, parce que c'est mettre ce personnage qui est une mouche, en faire le personnage central de cette chanson, Zobi la mouche, qui est devenu quelque chose alors qui nous est très proche.
Alors qu'on déteste tous les mouches.
C'est ça, a priori, la mouche, ce n'est pas forcément quelque...
Ah non, ce n'est pas un insecte voilà. Qu'on...
Et là, on a l'impression qu'elle fait la fête avec nous, qu'elle est là, que c'est un personnage incroyable. Et donc, c'est le côté très surréaliste aussi, ça, des Négresses Vertes, dans votre répertoire. Vous vous souvenez de la naissance de cette chanson, justement, Zobi la mouche ?
Ah ouais, moi, je m'en souviens super bien, ouais, vraiment. Ouais. C'est au Dragon de la Villette, dans le parc de la Villette. À l'époque, il était encore en chantier. C'était pas la Villette qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, voilà, je faisais deux accords, comme ça, là, mi-fa, là, comme ça. Un peu... Pas vraiment par hasard, mais bon, pas non plus très calculé, quoi, comme truc. Et puis Elno, il a commencé à faire Zobi la mouche dessus, et voilà, et c'est devenu une chanson. Et je m'en souviens vraiment bien.
Ouais. Ça marque aussi cette créativité assez libre, justement, du groupe, où tout était possible sur...
Ça, c'est le truc des autodidactes, un peu. Rien ne les arrête, quoi.
Le troisième morceau de Mla, c'est ça.
C'est pas la mer à boire pour tout ce qui est pas ça. C'est seulement battu pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire.
La mer, c'est la mer Méditerranée, c'est votre
non,
univers.
Pas du tout.
Non, c'est pas celle-là.
Non, c'est une chanson que Elno a écrite au Portugal.
Ah oui.
C'est l'Atlantique.
C'est l'Atlantique.
Ouais.
Mais pourtant, la mer Méditerranée, c'est aussi votre univers. En tout cas, la mer, l'Atlantique, du coup, pour
alors,
le coup.
Pour Elno, je ne suis pas sûr que ce soit la Méditerranée, que ce soit le... Enfin, du coup, c'est un océan et une mer. Je ne suis pas sûr que pour Elno, c'était la Méditerranée pardon, qui lui parlait plus. Un truc qui est sûr, c'est que Chanson, il a écrite face à Nazaré, qui est une ville, qui est une très jolie ville d'ailleurs au Portugal. Et il a écrit là-bas.
Une ville de pêcheurs, portuaire. Enfin, portuaire,
oui,
non,
oui,
de pêcheurs.
Oui. Vraiment face à l'océan Atlantique. Et j'ai une petite anecdote là-dessus d'ailleurs, parce que c'est un foiré là. Il est revenu avec un petit chien, une petite chienne, qui s'appelait Lily.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, c'est moi qui l'ai récupérée. Et sa mère n'en voulait pas. Et du coup, qui l'a récupéré, il m'a dit « Mathieu, est-ce que tu veux prendre ma petite chienne ?» Elle était super petite chienne, hein, mais juste bordélique. Du coup, j'ai récupéré la petite chienne qu'il avait ramenée, mais elle n'avait pas le droit de le faire.
Ah ouais, bah oui, parce
non,
qu'il...
il avait ramené ce petit chien.
On passe pas les frontières comme ça.
Avec des grandes oreilles comme ça, là, qui était toute jolie, toute mignonne. Et il a ramené son chien, mais comment, je ne sais pas comment ils ont fait pour ramener ce clébard.
Un chien qu'ils avaient trouvé sur le bord de la route.
Oui, c'est ça. Il a dû faire « Waouh, elle est trop jolie, baf !» Il l'a embarqué et puis après, une fois arrivé à Paris, rue de l'Ourcq, il a fait « non, Lucien a fait « Non, ce chien ne sera pas chez moi. » Donc il me l'a refilé, je me suis retrouvé avec cette petite chienne qui était juste un enfer. Mais elle était super mignonne.
Et puis la chanson qui revient chaque printemps. Et on s'aperçoit en égrenant toutes ces chansons du nombre de chansons passées désormais dans le patrimoine populaire des Français, alors que tout ça s'est construit, on le disait, dans la marge, la mouvance alterno, punk. Est-ce que ça voudrait dire que la France est plus punk aujourd'hui qu'hier ?
Ça, j'en suis pas sûr. Mais,
c'est pas gagné.
Mais bon, les chansons, c'est des chansons qui étaient, c'est des bonnes chansons, c'est des chansons qui traversent le temps parce que c'est des bonnes chansons. Toutes les bonnes chansons traversent les époques. Hein.
Et on parlait quand même de cet aspect punk, alterno. Il y avait une dimension politique chez les Négresses Vertes, affirmée ?
Non, on n'avait pas vraiment de conscience politique.
Non.
C'était, on avait des choses pour lesquelles on était pour et des choses pour lesquelles on était contre, évidemment. Un peu comme tout le monde, mais pas tellement plus que ça.
Elno a chanté avec les Berruriers Noirs,
ouais.
Tout de même.
Bah, elle a commencé.
Ouais.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ton truc, là. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les gens... les rappeurs d'aujourd'hui, pas tous, on va pas citer les abrutis, mais je pense qu'il y a, quand même une conscience aujourd'hui encore,
un peu plus, peut-être.
Dans le hip-hop, qui ont une conscience politique. Hein. Moi, je suis pas sûr que ce soit perdu, ça.
Ouais. Non. Ça, c'est effectivement, ça existe toujours, mais c'est effectivement, ça n'a pas la même forme. C'est vrai que
c'est différent. C'est pas la même ambiance musicale, on va dire. Mais il y a toujours quand même ce truc de dire merde, on va pas se laisser faire, quoi.
On écoute un autre extrait. Est-ce que ça, c'est pas un peu l'expression des influences un peu orientales aussi?
Ouais, carrément. Ouais.
Forcément, ça fait partie de l'ADN aussi des Négresses
Vertes.
Ouais,
tout à fait. Ouais. Bah ouais. On a grandi dans des quartiers. On a vécu dans des quartiers où on se mélangeait. Ça se mélangeait encore bien, quoi. Où c'était un quartier assez populaire. Et dans les cafés arabes, on avait de la musique. On avait Farid El Atrache, mais on avait aussi de la musique française. C'était un grand mélange. Donc on a été un peu imprégné de ça.
Et puis il y a l'aspect peut-être un peu surréaliste aussi des textes des Négresses Vertes. On en parlait déjà un peu tout à l'heure, mais il y a ça aussi.
Celle-ci peut être prise bizarrement.
Oui.
Tu peux la prendre au premier degré, au second degré, au troisième degré, voire au douzième degré. Quoi. C'est vrai que... Ça raconte quand même une histoire un peu particulière. Comment dire ?
Est-ce que ça raconte vraiment une histoire déjà ?
Ah, je pense que ça raconte une histoire, Polo.
Ouais, je sais pas.
Un truc qui est. Genre qu'il n'est pas d'accord.
Ouais.
Il n'est pas d'accord et il va voir ta mère. C'est un truc entre le père et la mère. Lui, l'enfant qui est pris entre deux feux. Et moi, je trouve que ça raconte une histoire.
Chacun a son interprétation de cette chanson, génial aussi. Ouais. Ouais. Et puis la faim, la pauvreté, la condition ouvrière, les destins maudits, ça aussi, ça fait partie de votre univers. On va continuer d'enfiler les morceaux parce que le temps avance. Il y a aussi ce morceau-là, par exemple. Dans ces chansons, vous racontez un peu la faune aussi avec laquelle vous viviez peut-être à cette époque-là. Ouais. Quelle était l'ambiance de l'époque dans vos soirées parisiennes ?
C'était chaud. Hein.
Ouais.
C'était chaud. Bah, c'était une ambiance de fête. Hein. Je ne suis pas sûr que ça ait changé tellement aujourd'hui. Hein. La fête, ça reste la fête, hein, quelles que soient les époques. Hein. Mais ça va, on s'est pas trop privé, ouais, ce qui est de faire la fête.
Et il y avait cette faune un peu particulière, avec beaucoup de gens différents.
On n'avait pas conscience que c'était particulier à l'époque.
C'est ça. Pourquoi particulier
pas, voilà.
Je ne suis pas sûr que les fêtes d'aujourd'hui soient...
Très différentes, hein, ouais. Je ne pense pas.
Je ne suis pas sûr non plus. Hein.
Non.
Mais la fête, c'est la fête, quoi. Tu te lâches. Après, il faut avoir un certain recul et pas faire du grand n'importe quoi. Mais je pense pas que ce soit. C'était pas plus particulière il y a 30 ans qu'elles le sont maintenant.
Et puis, il y a peut-être ce morceau qui est peut-être comme une sorte de manifeste, peut-être. Forcément, ouais, c'est la danse des Négresses Vertes.
Voilà, ouais.
Donc c'est aussi vous déclarez quelque chose là-dedans, vous.
Ouais, c'est un peu une autre contre le racisme.
À cette époque-là, il y avait Mandela était encore en prison.
Ouais.
Le FN était encore bien loin dans les sondages, mais commençait à montrer sa tête. C'était votre ADN aussi cette bataille-là.
Ouais, de toute façon. Ouais. Être contre le racisme, c'est pour moi, c'est de toute façon déjà le mot racisme, c'est une horreur, quoi. C'est déjà, rien que ça devrait pas exister. Mais forcément, ça fait partie de notre ADN, ouais, c'est sûr.
Oui, c'était notre quotidien. On côtoyait rue de Lourdes, on côtoyait tout et n'importe quoi. Donc, tu poses pas de question, la question de savoir si d'où il vient. Tu te dis putain, il est sympa, il est pas sympa. qu'il soit Rebeu ou Renoir, ou tu t'en fous, quoi. Tu te dis, il est sympa, bon, il est sympa. Il n'est pas sympa, il n'est pas sympa, tu le dégages. On s'en foutait de la couleur, quoi. C'est ça le plus important, quand même.
Et puis, il y a deux bonus, et Maria, qui résonne étrangement avec la disparition d'Elno, et puis le père Magloire, hymne inversé à l'alcoolisme, on va dire, peut-être c'est ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Plaisir.
On a refait le tour un peu de ces chansons. Là, 30 ans après, vous êtes sur scène et on est très heureux de vous recevoir ici au 106. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête, tu bourdonnes les abeilles. J'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été.
la soulier, je ressens pas les coupiers. Scratchant du jeu, fondant dans la soulier, je ressens pas les coupiers.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui, le programme du 106 cette semaine. Demain, concert de Émile Parisien Sfumato Quintet dans la grande salle. Tandis que le club sera occupé par Fanny Rebillard pour sa conférence Révolution sonore, l'histoire peu banale de la musique de jeux vidéo. Vendredi soir, concert de Rival Sons avec The Sheepdogs et Dean Del Rey. Et samedi, Synapson Super 8 Show. Et on se quitte avec Rival Sons, donc concert vendredi soir avec leur titre Do Your Worst. À la semaine prochaine.
Blind your eyes, steal your tongue, you'll take it when you're old, but it likes on you. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do your worst. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do your worst. Blind your eyes, steal your tongue, get you when you're old now.